Je suis à mon bureau, Time Magazine entre les mains, le numéro de fin d'année. Sous le titre Time et la mention Person of the Year, la photo d'un ordinateur. Au-dessus du clavier, l'écran figuré par un rectangle d'aluminium collé. Sur cet écran se reflète mon visage. En bas de la couverture, au milieu de la page et en grand, You, je suis la Person of the Year. Je joue le jeu. Dans le miroir qu'on me tend, comme à un million d'autres depuis l'autre côté de l'Atlantique, je regarde mon visage, yeux, yeux, oreille, oreille, nez, nez, bouche, bouche, signe particulier, néant. Ce soir, nous avons la chance d'être chez Jean-Jacques Schoule à l'occasion de la publication de son nouveau texte intitulé « Les apparitions ». Et comme chaque soir, nous allons commencer en musique et ça sera avec Marilyn Monroe, My Heart Belongs to Daddy.
Supposed to play with boys. Mon cœur est à papa. You know, le propriétaire. While tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy. But when I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to Daddy. If I invite a boy some night to dine on my fine fit and hattie, I just adore his asking for more, but my heart belongs to Daddy. Yes, my heart belongs to Daddy. So I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to Daddy. Dad, 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 dad. So I want to warn you, laddie, though I know that you're perfectly swell, that my heart belongs to Daddy. 'Cause my daddy.
Voilà, j'ai choisi pour vous Marilyn parce que par intuition, je me suis dit que vous aimiez bien cette chanson, Jean-Jacques.
Oh oui, bien sûr, j'aime beaucoup, beaucoup.
À la fois innocente et perverse, un peu comme vous.
Oui, c'est ça, oui. C'était fragile, oui. Très fragile, femme fragile, comme il y en a plus beaucoup. Quoi.
Des gens fragiles
des gens fragiles. Des femmes fragiles, on a trouvé. Une écrivaine l'a trouvé, puis ça a été bien repris après les femmes puissantes. On n'aurait pas l'idée de dire ça sur Marilyn, bien sûr.
Non, mais elle était puissante, Marilyn, finalement.
L'image était fragile dans la vie, et c'était quelqu'un qui a été assez fort, qui s'est fabriqué elle-même, et qui a été, puissante, mais l'image générale qu'elle donne, c'est l'image de mousse, champagne, fragilité, quelque chose de... d'une autre époque d'ailleurs, c'est pas, ce serait pas envisageable aujourd'hui, les temps changent, comme dit l'autre.
Les temps changent comment ? Pas terrible.
Ah, ça, je sais pas, c'est pas moi, je veux pas juger.
Bah les si, deux, vous en parlez dans votre
en
livre.
En bien, non, en bien
vous
et en mal.
Parlez des temps qui changent.
Mais il faut que ça change, c'est comme ça, c'est le, il y a un devenir, ça change. Je porte pas de jugement, je suis très mal dans l'époque, mais c'est, ça c'est moi, c'est mon problème à moi.
Mais ça veut dire quoi, être mal dans l'époque ?
Mais ça veut dire que je n'ai pas eu une formation, tout ce que j'ai aimé, c'était à rebours de la technologie, à rebours du formatage. J'ai appris la singularité, j'ai appris la littérature a été pour moi une espèce de rêve et est en train lentement de disparaître avec l'art en général d'ailleurs, remplacé par ce qu'on appelle l'art contemporain. Enfin, je pourrais dire comme ça développer pendant très longtemps. Mais ça, ça me regarde. Je n'ai pas le droit pour certains qui pour eux sont là comme un poisson dans l'eau, dans la technologie, ils s'y adaptent tout de suite. Donc je ne permettrai pas. Je vois aussi que le cinéma que j'ai aimé, argentique et avec toute une syntaxe intéressante, enfin, le cinéma disparaît aussi, donc tout ça n'est pas très drôle.
À contre-courant, mais pas pour autant pleurnichard sur les,
ah ben non, d'ailleurs,
les temps
d'aujourd'hui, je crois,
c'est pas votre genre.
D'ailleurs, d'après ce qu'on me dit, je sais pas du tout si c'est votre avis, je crois avoir fait un livre qui est pas drôle, quoi qu'encore si, oui, peut-être un peu, mais dans tous les cas, pas pleurnichard. Il est, je pense, j'ai essayé de le faire le plus, dynamique et un peu joyeux possible.
Drôle, je sais pas si c'est l'adjectif que j'emploierais, je dirais acide. Est très élégant par rapport à notre compagne qui nous attend là-bas, qui s'appelle la mort.
C'est ça. Face à la mort, quoi ? La rigolade ou l'art ? Alors c'est Raymond Queneau qui disait, il faut l'art, mais il faut la rigolade. Il faut la rigolade, mais il faut l'art. Je trouve que c'est un assez beau programme. C'est un programme qui reprend un peu, je pensais, lorsqu'il a dit ça, je sais pas, est-ce que dans une émission de télévision, et lorsqu'il a dit ça, j'ai pensé à ce que Baudelaire raconte sur Edgar Poe, dont une très belle préface qu'il a fait à ses contes grotesques et sérieux. Tales of the Grotesque and the Arabesque, c'est mieux en anglais. Et donc, Baudelaire disait, il fut grand, non seulement dans ses pensées sublimes de poète, mais aussi en tant que farceur. Bon programme, le mélange des genres constamment, le grotesque et le tragique, la mort et l'art. Mais oui, quelle parade face à, peut-être pas la mort, mais la pensée, la mort. Alors je me suis amusé, si on peut dire, dans le livre, à essayer de les dénombrer. Bon, c'est pas exhaustif, c'est peut-être pas très juste, mais enfin ça, dans une certaine direction. Donc il y avait la poésie justement comme parade, ou si vous voulez la littérature ou la poésie, c'est pareil. L'érotisme, le mysticisme. Et l'aventure, l'aventurier, dont on sait très bien qu'une des motivations, si on peut appeler ça une motivation consciente ou inconsciente, très souvent ça a été, que ce soit chez Lawrence, chez Malraux, chez qui vous voulez, chez les grands aventuriers, ça a été certainement une grande peur devant la mort. L'érotisme, on sait, Freud est venu là-dessus, Eros, Thanatos, je ne vais pas développer, j'en serais d'ailleurs pas capable. Le mysticisme, bien, et tout ça... je dis peut-être un peu vite, je dis peut-être un petit peu vite dans le livre, je dis que tout ça aujourd'hui, c'est très compliqué, très difficile dans le contexte. D'abord, il faut être, pour certaines de ces choses, l'érotisme ou autre, il faut être doué, certaines, il faut avoir pas mal d'argent, etc. Et bon, donc tout ça, c'est des parades de luxe, en somme, qui en plus, même si on a tous les éléments, beaucoup de cartes dans son jeu, aujourd'hui, avec, on voit bien, avec tout ce qui se passe, les chances sont très réduites. Notre jeu n'est face à celle-là dont on parlait, notre jeu n'est pas très fort.
On a l'impression, en lisant votre livre, Jean-Jacques Schoule, que vous regrettez de ne pas être mort.
Non, pas du tout. Je comprends. Là, je dois dire que je.
Enfin, ça vous aurait pas gêné, quoi.
Si, beaucoup, j'ai très peur de la mort, je suis très, je suis quelqu'un qui a peur de la mort, qui est lâche, qui regarde, d'ailleurs non seulement il est lâche, mais il regarde les catastrophes du monde avec, comme pas mal de gens, un certain, que ce soit du spectacle, on voit ce qui se passe actuellement en Ukraine, on voit toutes les grandes catastrophes, c'est quelque chose qui est pas totalement déplaisant de voir de la catastrophe. C'est deux, c'est très ambigu. C'est très très ambigu, j'ai remarqué que c'était pas seulement moi, mais chez d'autres personnes. Mais ce qui va pas très bien dans cette position-là, c'est que par ailleurs, je suis un lâche.
Ben, c'est pas du tout l'impression qu'on a quand on lit votre texte, Jean-Jacques Schoul. On a au contraire l'impression que quand la catastrophe vous arrive, qui devrait être inéluctable, et les médecins vous le disent et vous le répètent, vous avez une sorte d'indifférence et de grande élégance. Et vous êtes spectateur de ce qui est en train de vous arriver.
Oui, alors là, je me suis découvert comme ça. Il faut croire qu'il y a dans certaines circonstances, alors comment je me comporterais sous les obus, mettons, puisqu'il y a l'Ukraine aujourd'hui, comment est-ce que je me comporterais sous les obus ? On ne peut pas savoir, effectivement. Des gens qui sont d'une grande lâcheté en dehors des grandes occasions, des grandes circonstances, on sait ça, quoi, c'est chose que j'ai entendu dire, lorsqu'ils se trouvent sous les bombes, dans des grands dangers, ou des trucs, ils changent, ça devient une autre personne. Ça devient une autre personne, ce qui rejoint, de façon, si vous voulez, un des autres thèmes du livre, je veux pas trop faire l'exégèse de mon propre livre, mais enfin, ou l'analyste, ce qui rejoint une autre fil rouge, disons, de ce livre, que je ne suis pas fixé, mais qui est venu comme ça, qui est la dépersonnalisation, enfin le refus du moi trop affirmé, etc. Ça peut se dire, si vous voulez, encore que c'est pas tout à fait ça, mais enfin, ça peut se dire aussi bien, là je l'ai fait de façon un peu grandiloquente, mais ça peut se dire aussi bien par une histoire drôle que j'avais entendue. C'est quelqu'un qui rentre dans un bar, qui voit quelqu'un d'autre au comptoir, qui s'approche et qui lui dit « Ah, Durand, comme tu as changé, je ne te reconnaissais plus. » Et le type se retourne et dit « Mais je ne suis pas Durand. » Et à ce moment-là, le premier dit « Mais comment, tu as aussi changé de nom ?» Alors, ça peut aussi se raconter comme ça. Vous voyez les deux voies des grandes idées, etc. Je fais un peu depuis lui. Et puis du grotesque comique, quoi, cette espèce de mélange. Ça peut aussi se dire par une histoire drôle.
Oui, c'est-à-dire que dans votre écriture, mais ça depuis longtemps, Jean-Jacques Schoul, il y a une sorte, quand l'événement arrive, de la fin de votre vie, telle qu'elle vous est annoncée, il y a une sorte de désobjectivation de vous-même. Il y a celui qui dit, alors évidemment, celui qui dit, et celui que le lecteur lit, c'est celui qui a survécu, et qui dit, ben voilà, ça va m'arriver, bon, et alors, et je vais regarder ce qui est en train de se passer. Et puis, à ce qui vous est arrivé physiquement. Donc, il y a une sorte de désobjectivation corporelle et une objectivation psychique. Il y a une sorte de dédoublement, en fait.
J'ai pas perçu, vous savez, dans ces moments-là, j'ai pas perçu tout ce qui m'arrivait lorsque j'ai...
Mais vous avez pris des notes ?
Très vite, non. J'ai pris des notes au sortir de la transfusion et après, et j'ai surtout pris des notes, la chose sur laquelle j'ai buté là-dedans. Et qui a déterminé mon souhait de d'écrire quelque chose. C'est évidemment pas l'hémorragie, la proximité de la mort que je ressentais pas tellement à ce moment-là, c'était rétrospectif, mais enfin, le docteur m'a dit des choses.
Terrible!
Oui, mais ça a été ces apparitions que j'ai eues au cours de la transfusion. Et donc, où j'étais en super-hypoxie, c'est-à-dire grande perte d'oxygène, ce qui détermine des troubles dans le cerveau. Et là, j'ai eu ces cinq apparitions que je raconte, que j'ai racontées le mieux possible, et c'est très difficile pour moi de les raconter, parce qu'elles ne se rattachaient ni à un rêve, ni à une hallucination. C'était pas tout à fait du cinéma, pas tout à fait du théâtre. C'est quelque chose de très particulier que j'ai essayé de rendre du mieux que j'ai pu, et j'ai dû faire ça pendant des semaines et des semaines, bien que ce soit les cinq apparitions font peut-être 10-12 pages, mais ça a été le travail a porté beaucoup beaucoup là-dessus. Et ensuite, bien sûr, les discussions avec les deux, un interniste, mon interniste à Paris, et puis une neurologue de chef de clinique de Genève qu'on m'a indiqué, que je connaissais pas, et tous les mercredis je lui téléphonais comme pour une consultation, sauf que c'était pour moi et que je n'avais pas de consultation, sauf pour mon livre, puis j'avais pas de séquelles, c'était terminé, mais je voulais savoir ce qui s'était passé, qu'est-ce que c'était que ces images, d'où elles venaient, et on m'a répété tout le temps qu'elles venaient de mon cerveau, et j'ai tout le temps eu l'impression qu'elle m'était offerte par quelqu'un de l'extérieur. À tel point que je dis, moi qui suis vraiment était tout le temps laïque, qui ne croit absolument pas, qui ne suis pas croyant, je dis dans le livre que si j'avais un tant soit peu de tendance vers la croyance, ce serait le moment. Parce que j'ai vraiment eu l'impression que ces apparitions, non pas dans le contenu, parce qu'elles étaient très profanes et même profanatrices, puisqu'il y a des barbures hurlant contre l'Occident, il y a des tas de choses, des ivrognes dans un pub, donc ça n'a rien évidemment de religieux, mais dans leur forme, dans leur manière d'être présenté à moi par quelqu'un, par qui ? Par une transcendance peut-être, c'est ça l'impression que j'ai eue. Or je ne suis pas du tout partant pour toutes ces choses-là, j'étais pas le bon client pour ça. On s'était trompé de distribution, erreur sur la personne. Mais pourtant, j'ai eu ça. Et ça reste d'ailleurs assez fort encore maintenant.
Vous avez encore des apparitions, Jean-Louis ?
Non, je n'ai plus d'apparitions, mais je
pense... Mais vous pensez aux apparitions qui vous sont restées dans la mémoire ?
Oui, d'autant plus que comme je l'ai écrit, vous savez, ce qu'on écrit fortement et avec vraiment écrit, j'ai écrit difficilement et pendant longtemps, donc ça se marque. Rien, il n'y a eu aucun traumatisme là-dedans, c'était quelque chose de très surprenant. J'étais en plus dedans, sous la forme d'un corps qui n'arrivait pas à se relever, un corps qui était témoin de l'histoire parce que Les trois premières apparitions, si vous voulez, sont des apparitions, je dirais, de violence domestique, pas au sens de domestique, du mari et femme, mais domestique, c'est-à-dire pas public, ou public, mais enfin, des ivrognes dans un bar qui est en train d'être inondé, un appartement dont je ne peux pas sortir alors que j'ai pu y entrer, etc. Un cocktail très curieux où il y a des gens avec des verres de rouge dont on se demande si c'est du sang ou pas. Pour l'instant, on reste dans une violence, socio-privée, enfin comme ça. Par contre, les deux dernières, c'est l'intrusion de l'histoire, avec un grand H. Celle avec les barbus iraniens qui ressemblent tous au l'ancien président iranien Ahmadinejad. Donc là, c'est une violence qu'on connaît, ces barbus hurlants, c'est celle du 21e siècle, l'islamisme hyper religieux. Et les tanks, des tanks qui m'entourent, qui entourent mon lit, qui tournent autour de mon lit, où je suis encore une fois allongé. Et là, c'est la violence du 20e, et à nouveau de maintenant, d'ailleurs je l'ai écrit avant l'Ukraine, mais c'est de nouveau reparti, c'est la violence russe. Le tank, c'est synonyme de ça, bien qu'elle est en Amérique du Sud, si vous voulez, mais enfin... Tout ça, ça a été, d'après eux, fabriqué par mon cerveau, d'après cette neurologue genevoise. Je dis dans mon livre, pour essayer d'en sortir un peu, que ça peut être au croisement des deux, c'est-à-dire au croisement de la perception et l'imagination. De même que André Breton, je crois que c'est dans le deuxième manifeste, parle d'un point où certaines contradictions sont abolies, ou seraient, peuvent être abolies, et il parle en particulier de perception et imagination. Quand il parle de Picasso, il parle tout le temps comme ça, il dit Picasso, et Picasso lui-même dit c'est le mélange de perception et d'imaginaire et d'imagination. J'ai terminé le livre sur cette note-là, plus ou moins, mais c'était très, 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 très étrange.
Vous êtes comme la Vierge Marie au moment où l'ange de l'Annonciation vient lui rendre visite. Vous ne savez pas qui est venu vous visiter.
Oui, non, enfin oui, on peut...
Vous pouvez le
dire comme ça. Si l'ange de l'Annonciation a les traits de Ahmadinejad, les traits de gens assoiffés de sang qui se réunissent à 3h du matin, les traits d'un ivrogne anglais dans le bar et les traits d'un tankiste, oui, d'accord. C'est celui-là, l'ange de l'Annonciation. Alors là, c'est plutôt le diable qui est venu me montrer quelque chose.
Peut-être.
Oui, peut-être.
En tout cas, ce qui est très étrange, c'est que ces apparitions, qui d'ailleurs donnent le titre de votre dernier livre, Jean-Jacques Schoule, ressemblent furieusement à des éléments déjà imaginaires traduits dans vos anciens livres et appartiennent à votre univers le plus profondément enfoui. Je ne veux pas faire de la psychanalyse de bas étage, mais c'est très étrange. D'un côté, vous avez les médecins, les neurologues qui vous disent objectivement « mais c'est parce que votre cerveau était comme ça que vous avez eu ces apparitions ». Et puis de l'autre, on a l'impression que c'est l'acmé de votre imagination qui vous a conduit là.
Il y a aussi une osmose entre ce qu'on écrit et ce que l'on vit. À un moment donné, j'ai l'impression, j'ai dit que quand j'arrive à cet hôpital curieux avec une piste qui me semble être une piste d'héliport, enfin je suis dans un état un peu second, mais il y a une sorte de piste avec des que je crois être une piste d'héliport. L'hôpital est en haut sur une très haute colline. C'est déjà drôle comme situation, perché là-haut. Il y a ce que je crois être un héliport, parce qu'il y a des spots aux quatre coins d'un terrain. Et puis il y a diverses choses où je me dis, ça me rappelle quelque chose. Je m'aperçois dans le livre assez rapidement, dans l'écriture, je m'en suis aperçu aussi relativement rapidement. Enfin, je me dis, je sais ce que ça me rappelle. Et ce que ça me rappelle, c'est un passage imaginé d'une fiction que j'ai écrite qui s'appelait Entrée des fantômes. Où il y a un hôpital qui est décrit comme ça, que je reprends là-dedans. Donc, comme disait Wilde, Oscar, la réalité imiterait-elle l'art ? La réalité, dans ce cas-là, imitait l'art de moi ? Ou bien, qu'est-ce que c'était ? Enfin, ça aussi, ça me posait une question.
L'imminence de la mort nous rappelle au réel. On peut pas s'échapper par l'imaginaire. C'est aussi un des thèmes obsédants de votre dernier livre. Et pourtant, vous, Jean-Jacques Schulz, par l'écriture, vous échappez au réel de la mort. Et vous faites, dans le sens le plus haut du terme, vous faites un film. Vous construisez un film de ce qui vous arrive.
Oui, je crois pas que ça me soustrait ou que ça me...
Vous avez les deux en même temps, le sentiment du réel de l'imminence de la mort et en même temps le film que vous nous livrez à nous, lectrices et lecteurs.
Le film, vous voulez dire...
La suite d'images que vous construisez dans votre cerveau et que vous nous décrivez admirablement. Et en même temps évanescent, comme si l'écriture allait se dérober tellement les images sont justement éphémères.
Oui, bon, d'accord. Mais le problème, oui, j'ai toujours beaucoup vécu dans les images, ce que Baudelaire appelait cette chose que les enfants, qu'on apprend enfant, les images, et qui nous suit ensuite, qui est notre passion pendant toute la vie, les images. Le problème, c'est de ne pas prendre les images pour la réalité, ce qui se passe beaucoup actuellement avec les nouvelles technologies. Alors je vais vous raconter encore une histoire, puisque c'est comme ça pour... sous forme d'histoire que d'histoire drôle. Il y a une grand-mère qui promène son petit enfant, sa petite fille, toute petite fille, dans un parc. Il y a quelqu'un qui s'approche du banc et qui lui dit « Oh madame, comme vous avez une jolie petite fille !» Et à ce moment-là, la grand-mère met la main dans sa poche intérieure, sort un portefeuille et dit « Attendez, c'est rien, ça, vous n'avez pas vu la photo ?» Et elle lui sort la photo de sa petite fille. Bon, faire quand même attention de pas un film, d'accord, mais c'est peut-être. Il y a un côté aussi faux semblant illusoire dans les images.
Enfin, depuis longtemps, vous composez à partir d'images, vous composez à partir d'écrits, comme une sorte de musicien de la littérature, votre propre récit. Et on a l'impression que les images préexistent peut-être, les images qui sont par définition chez vous, en tout cas totalement fragmentées, elles préexistent peut-être à la perception de la réalité. Je me trompe ou pas ?
Peut-être, oui. Peut-être ça ramène ensuite à une perception de la réalité, à un certain réalisme, parce que... Qu'est-ce que c'est le cinéma ? Qu'est-ce que c'était, puisque il existe moins fort ? Cocteau, qu'est-ce qu'il disait ? Un compte rendu réaliste d'événements irréels, mais il disait réaliste. Il disait quand même un compte rendu réaliste. Orson Welles parle de c'est très beau aussi, la définition de Welles, c'est un ruban de rêve. Je trouve ça magnifique comme définition. Oui, tout ça m'a bercé depuis, comme non pas le long des golfes clairs, mais le long de ma cité. De ma cité obscure.
Vous avez vécu objectivement un cauchemar, mais vous le racontez comme une suite ininterrompue de rêves.
Non, je trouve les... Enfin, vous avez cette perception, oui, pourquoi pas. Mais je trouve que ces apparitions et moi couché qui n'arrive pas à me relever, ça reste un cauchemar. Et ça a été un cauchemar.
Et aujourd'hui ?
Même en le racontant, même dans le livre, ça reste quand même assez effrayant.
Oui, mais on a l'impression d'une super puissance du narrateur qui arrive toujours à s'en sortir par le biais de son imaginaire.
Bon, très bien, il y a l'écriture. Oui, ça, c'est,
voilà, il y a l'écriture.
C'est un fait. L'écriture, j'ose pas dire la littérature. Oui, enfin, ça, c'est un mystère. C'est mystérieux, oui.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Jean-Jacques Schoul. Pour notre plus grand bonheur, c'est Ingrid Cavan, La, La, La.
Et pendant ce temps-là, moi je fais la 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 la, la la. Tout ça s'effacera, l'histoire coulera, on ne sera plus là. Mais pendant ce temps-là, je regarde toutes ces choses-là, j'écoute tous ces trucs-là, et je fais la 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 la. On chantera la 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 la, on dansera la 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 la. Je ne serai plus là.
Alors je vais lire un tout petit extrait de votre dernier livre, qui est assez représentatif de la sensation que nous éprouvons, nous lectrices et lecteurs, devant votre travail d'écriture. Je ne sais pas si le mot « travail » vous plaît, Jean-Jacques Schoul, mais en tout cas, j'ai bien l'impression que ce livre, qui est très court, est en même temps très long, parce qu'il est complètement médité sur le plan de la forme, sur le plan des différents registres et des textures, si j'ose dire, littéraires. Et il est par essence, comme la plupart de vos livres antérieurs, il est fragmenté, fragmentaire, comme il y a une écriture fragmentée, fragmentaire de Walter Benjamin et de bien d'autres. Alors voici un des fragments. Hypoxie, quoi ? Vous avez eu une hypoxie cérébrale, forte hémorragie, chute brutale du taux d'oxygène, hyper-excitabilité du cerveau. Ce n'est pas un accident exceptionnel, ce qu'il est, ce sont vos images et votre tournure d'esprit. Et vous, vous répondez, ça ne venait pas de moi. Et le médecin vous répond, de qui ? De quoi alors ? Alors je voudrais qu'on revienne à, ça ne venait pas de moi. Ça vient de qui alors ?
J'en sais rien.
Il y a des choses qu'on ne sait pas, mais vous, vous êtes devenu écrivain, justement pour essayer d'atteindre les choses que vous ne savez pas.
Les choses un peu intangibles, mais tout en restant... je n'aime pas la science-fiction, je n'aime pas le grand...
Non, on ne parle pas de ça.
Non, je n'aime pas le fantastique, non, je n'aime pas l'autre monde. D'ailleurs, je reproche un peu à Breton, il y a plusieurs surréalismes, et je ne suis plus localisé. Oui, il y a un autre monde, mais il est ici. Ça, d'accord. Eh bien, j'ai l'impression que ça venait du monde, des choses. Comment vous dire ? Le mot qui m'est venu, après avoir cherché, parce que chaque mot, j'ai dû réfléchir quel mot je devais employer, etc. Et le mot est simple, d'ailleurs, parce que j'aime pas les mots trop compliqués. Le mot qui me suggérait le mode d'apparition, la manière dont c'était que ça m'était offert ou présenté par point d'interrogation. Une transcendance, quelqu'un, un diable, ça m'était offert. Au début, j'ai eu d'autres hypothèses, je le dis rapidement dans le livre, j'ai pensé que j'étais l'objet d'une expérimentation par des gens, c'est une attitude paranoïaque classique dans des films de trucs de science-fiction ou autres, c'est-à-dire j'étais l'objet d'une expérimentation, j'avais été hospitalisé là-haut, à tort ou à raison d'ailleurs, et on expérimentait sur moi parce que j'étais un artiste intellectuel, on avait appris que j'avais eu un prix, et peut-être j'étais un objet plus intéressant que d'autres, et donc on expérimentait sur moi, comme la CIA l'a fait à certains moments, enfin, tout ce que William Burroughs a un peu pu raconter, a raconté avec beaucoup de talent et de drôlerie d'ailleurs. On trotte dans un article qui s'appelle The Limits of Control, et d'après lequel Jim Jarmusch a fait un film. Donc ça a été ma première hypothèse. Et ensuite, j'ai évidemment vu que je pensais que c'était pas ça, et j'ai pensé donc qui me présente ça, pas moi. En plus, tous les thèmes qu'il y avait dans ces apparitions, c'était des choses qui n'appartiennent pas du tout à mon univers. Amina Déjab, un tank russe, je sais pas, des intellectuels, des artistes espagnols, des intellectuels espagnols en train de boire une liqueur rouge à 3 heures du matin, tout ça me venait vraiment d'ailleurs, complètement de l'extérieur. Mon docteur m'a dit tout de suite, alors c'était un rêve. Pas du tout, ça n'avait aucun des ingrédients du rêve. D'abord, ça n'avait pas la... Il y avait quelque chose de très solide, de très construit. Or, le rêve, c'est comme les nuages, ça se dissout, ça revient...
Par contre, ce qui est au fondement de votre écriture, Jean-Jacques Schoul, et qui vous appartient en propre, c'est que justement, vous n'êtes pas le jeu avec un grand J, vous n'êtes pas l'auteur avec un grand A... Des textes que vous écrivez, vous le revendiquez depuis longtemps comme une sorte de méthode et d'appartenance à la littérature, et que ça soit dans Telex numéro 1 ou Apparition des fantômes ou Rose poussière, vous vous revendiquez d'un courant littéraire où ce n'est pas vous qui écrivez, c'est quelqu'un qui agence des mots écrits avant vous.
C'est l'attitude pop. Je me considère, ça fait un peu prétentieux de dire ça, mais enfin, si je dois mettre une sorte d'étiquette, comme un pop romancier, pop romancier rome, c'est-à-dire, je m'appuie sur quelque chose qui est déjà là. Je me permets, puisque j'ai commencé à être prétentieux, à l'être encore un peu plus, en faisant une auto-citation, des premières lignes que j'ai écrites, que j'ai jamais écrites, c'est-à-dire au tout début de Rose Poussière, qui sont, j'aimerais un jour parvenir, à la morne platitude distante du catalogue d'armes et cycles de Saint-Étienne. En attendant, loin du compte, j'ai recopié des telex hippiques, des prospectus pharmaceutiques, des publicités, des dialogues de films, tout le reste, hélas, est de moi, probablement. Voilà, je peux pas dire mieux.
Vous pouvez peut-être expliquer. Par exemple, j'ai la chance d'être chez vous, dans votre appartement, à Paris, donnant sur un jardin, avec des cris d'enfants, parce que c'est l'heure de la récréation. Et sur le divan, juste à côté de nous, il y a des pages écrites qui sont empilées, il y a des reproductions de publicités, comme si effectivement l'écriture était une sorte de marelle. On apporte des pièces qui vont former une partie du puzzle qui lui-même va former le corpus de l'écriture.
Dans les deux premiers livres, qui sont des années 70, qui sont marqués pas mal par la pop culture, par William Burroughs, par la fragmentation, je me suis retrouvé dans ce courant-là, tout naturellement. Ensuite, je pense, j'ai toujours voulu quand même, écoutez, dans ce petit livre, ce petit opuscule, là, ce tout petit livre, il y a à un moment donné un dessin. Ça s'appelle un tirse. Le tirse est un instrument sacerdotal, un instrument en même temps de musique et pour un effet de sorcier. C'est Baudelaire qui dans ses poèmes en prose, parle du tirse. Et ce tirse est à la fois une courbe, certainement en bois, le hanse en bois. De ce bois, il y a des cordes qui sont autour de deux cordes, viennent s'entremêler et s'enlacer d'une ornementation en courbe. C'est-à-dire, on a à la fois la courbe et la droite. Et Baudelaire dit que c'est ça le secret de l'écriture, c'est d'avoir les deux. Alors, je m'amuse, puisqu'il s'agit d'une courbe plus ou moins en S, enfin S un peu allongée, coupé, donc qui fait les rondes, qui fait elles font leur cours autour de la, autour d'un espèce de bâton qui est, je sais pas, on empoigne l'instrument, et donc il y a cette courbe et donc deux droites qui sont les cordes. Et donc je m'amuse à dire ceci, c'est que quelqu'un a dit que on passe peut-être sa vie à illustrer son nom ou à l'incarner. On voit en effet des gens dont le nom ressemble à ce qu'ils ont fait, ou si on fait ressemble au nom. Et là, moi, je dis, c'est seulement mon paraphe. Non, tout ça pour dire que je pense qu'il faut toujours quand même la droite. On ne peut pas faire que de la fragmentation. Je pense que c'est une énorme erreur. Ça, c'est l'Internet, c'est la poésie à bas prix, où on fait n'importe quoi. Et ça, je n'en veux absolument pas, sous aucun prétexte. Et je pense, j'espère, qu'il y a quand même aussi dans ce livre, pas une, sinon une basse continue, du moins une ligne, enfin, qu'il y a une ligne ou peut-être deux lignes autour desquelles il y a des variations. C'est ce que j'essaye de faire, mais je suis pas. Mais maintenant, on voit beaucoup de choses avec des fragments, ou au contraire, dans l'autre sens, des choses très linéaires et chronologiques qui sont pas non plus, à mon avis, ce qui est intéressant pour saisir l'époque.
J'ai l'impression, moi, qu'il y a plusieurs lignes, il y a plusieurs variations. C'est comme un morceau de jazz. On parlait avant de commencer cette émission de Brian Eno. On peut penser à un morceau de musique de Brian Eno. Et ce qui est très étonnant à l'intérieur de la littérature contemporaine, Jean-Jacques Schoule, c'est cette impression de d'ondoiement, de mouvement même de votre écriture, qui va vers le non épuisable. Vous n'épuisez jamais vos thèmes et vous repartez sur un autre thème qui lui-même ne va pas encore s'épuiser, mais vous allez le quitter pour en prendre encore un troisième.
Oui, j'aime beaucoup j'aime énormément la variation. Je peux pas m'installer, je suis très impatient. J'aime beaucoup, beaucoup la variation. Toutes sortes de variations et d'oppositions, comme je vous l'ai dit au début, de contradictions. Je pense que les œuvres d'art intéressantes se font sur la base d'une contradiction, du moins les œuvres d'art modernes. Je vois avec Jean-Luc, je me permets de citer deux, trois noms, je veux pas faire trop de name dropping, mais je vois Jean-Luc Godard, le peintre Rauschenberg, qui pour moi a été mon grand modèle en peinture. C'est sur des contradictions, parce que c'est bâti sur une connexion entre le romantisme et la modernité chez Godard, chez Rauschenberg un peu aussi d'ailleurs. Et moi, vous me parlez beaucoup de ma modernité, de la fragmentation, mais je suis très attaché à la tradition. Je veux dire, la tradition, pas la grande tradition. Je suis attaché au romantisme, je suis attaché à une certaine tradition, pas la grande tradition classique. Autre chose, j'ai l'impression, je vous parlais de variété.
Vous êtes un classique alors ?
Non, je suis un classique moderne. Je suis un lyrique surtout. Et j'espère être un peu, je voudrais l'être encore, je voudrais faire encore un ou deux livres. Pour asseoir davantage, j'ai essayé un peu là-dedans un lyrisme qui ne soit pas un lyrisme de romantique, de bel canto, de ces choses-là, mais un lyrisme moderne.
C'est quoi le lyrisme moderne ?
Eh bien, le lyrisme moderne, si vous voulez, pour prendre un exemple, quand on lit Hemingway, d'abord, on a l'impression que c'est très sec, c'est la petite phrase américaine. Et quand on regarde mieux la phrase d'Hemingway, ou plutôt pas une seule phrase, mais quand on prend plusieurs, on s'aperçoit qu'en dessous, comme dans un iceberg, puisque lui-même a parlé de sa théorie de l'iceberg, et que les trois quarts de ce qu'il écrivait étaient enfouis, on entend, comme montant des flots, tout ce que vous voulez, on entend quelque chose de très lyrique, de très personnel, et de très, qui est déchirant presque, qui monte d'en bas. C'est ce que j'appelle un lyrisme moderne, parce que son écriture semble très, très datée, XXe siècle, Gertrude Stein, tout ce que vous voudrez. Et la plupart de ceux qui emploient la petite phrase sèche et l'écriture linéaire et chronologique croient parfois qu'ils font de l'Hemingway, mais ils n'en font pas du tout.
Vous avez évoqué depuis le début de l'entretien à plusieurs reprises Charles Baudelaire. Et c'est vrai qu'en lisant les apparitions, on pense beaucoup à Baudelaire. Et il y a chez vous cette obsession de la capture des mots les plus précis pour décrire les sensations, les émotions, les traversées que vous avez eu à faire au cours de cet incident de santé gravissime. Et à plusieurs reprises, vous nous communiquez, Jean-Jacques Schoule, le décalage entre ce que vous percevez, ce que vous entendez, et les mots, la saveur des mots qui n'est pas tout à fait la même, qui vous parvient à l'intérieur de votre être le plus profond. Est-ce que ça serait ça, une des définitions de l'écriture, rendre le plus précis cette espèce de décalage qui vous arrive ?
C'est une des définitions, mais puisque vous parliez de Baudelaire, qui, à mon avis, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup chez Baudelaire, c'est la définition qu'il a donnée de l'imagination, qui est extraordinairement moderne. Pour beaucoup, pour la plupart des gens, l'imagination, c'est des choses inventées, des choses fantasmagoriques, ou etc. Or, pour Baudelaire, pas du tout. Baudelaire était quelqu'un de très froid. Et donc, c'était pas ça. L'imagination, il le dit, c'est pratiquement textuel, je veux dire. L'imagination est liée, pour lui, c'est l'art des analogies et l'art des associations. Je me demande même s'il n'emploie pas le mot association, qui évidemment sonne très moderne, puisque Freud, puisque surréalisme. Et Baudelaire parle de faire se rejoindre deux images, par exemple, comme Reverdy l'a fait plus tard d'ailleurs, et Godard à sa suite, faire se rejoindre deux images le plus éloignées possible, tout en voyant quand même en perdant pas non plus leur rapport, et les faire se rejoindre dans une autre image, dans une écriture, par exemple, ou dans un tableau. Et ça me paraît très, très intéressant. C'est ça, c'est ça le secret d'une bonne écriture.
Comment choisissez-vous vos mots ? Est-ce que vous avez pris des notes donc au moment où ça vous arrivait, mais vous n'avez pas composé, puisque c'est vraiment un livre de composition, les apparitions ?
Ça se compose au fur et à mesure, oui, j'ai pas de plan. Mais après, c'est compliqué, c'est un va-et-vient entre un plan qui se fait, mais pas dans l'abstrait et au départ d'en haut. Le plan se forme en même temps, empiriquement en somme. Le plan se fait, il y a un va-et-vient entre quelque chose d'un peu conceptuel et des trucs totalement sauvages, quoi, qui viennent comme ça. Mais je tiens à ce qu'il y ait quand même une perspective, un plan. Et parfois, j'ai l'impression que le livre est terminé, il n'y a plus qu'à l'écrire. Ça veut dire que j'ai l'impression que j'ai trouvé une atmosphère, un décor ou quelque chose dans lequel ça baignera. Mais je refuse d'être dans une sorte d'anarchie poétique.
Et en même temps, l'écriture n'est-elle pas pour vous une manière d'assumer votre perdition ? Puisque tout au long de ce texte, vous vous perdez vous-même, vous l'expliquez. En tout cas, vous ne vous reconnaissez pas vous-même. Vous ne savez pas, comme la première page que j'ai lue tout à l'heure au tout début d'émission, mais il y a de nombreux passages à l'intérieur des apparitions où vous ne savez pas qui vous êtes. Et ce jeu-là, est-ce qu'il devient tu à l'intérieur de votre écriture, Jean-Jacques Schoul ? Est-ce que vous vous approchez de vous-même grâce à l'écriture ?
Non, on cherche à m'éloigner de moi-même. C'est le deuxième fil rouge dont je vous parlais au début, plus ou moins, qui s'est révélé peu à peu, que j'ai pas imposé, mais qui s'est révélé à travers des choses qui m'étaient arrivées. Et je citais la phrase du poète anglais T.S. Eliot, qui résonne un peu d'une religion orientale, disons, ou dans tout le cas d'une sensibilité orientale, puisque Eliot, qui avait été prix Nobel en son temps, avait beaucoup étudié les religions, la religion bouddhiste, entre autres. Et donc, il a cette phrase. Et cette phrase m'est tout le temps restée très précieuse, la phrase de Eliot, à propos de l'affirmation ou non de soi. Il dit, la poésie n'est pas l'expression ou l'art, je me rappelle plus si je dis l'art ou la poésie, disons que c'est pareil, l'art n'est pas l'expression de soi-même, mais l'évasion hors de soi-même. En anglais, it's not the expression of oneself, but the evasion out of it. C'est-à-dire, pas du tout une prise de possession de soi, un contrôle de soi, parce qu'au début, je dis je veux pas de contrôle. Donc, pas de contrôle de soi, pas de prise de possession de soi, donc tout simplement une position qui me paraît assez oriental, pas du tout d'ici.
Souvent, dans les romans, mauvais ou bons, on tente de décrire, parce que rares sont les personnes qui ont pu en témoigner, l'arrivée imminente de la mort comme un long couloir. Chez vous, c'est beaucoup plus compliqué, hein ?
Il y a un critique là qui parlait du couloir de la mort. Je lui ai dit, comme c'est quelqu'un que je connais, que c'est un peu un ami, Je lui ai dit que ça faisait un peu, vous savez, dans les fêtes foraines, le couloir avec les chauves-souris et tout ça, c'était un peu un bric-à-brac. Non, je sais pas, c'était la mort se présente jamais, je crois, enfin, sous les... Ça peut être qui dit ça, c'est Hemingway. Bizarrement, c'est Hemingway, on peut croire que c'est Cocteau, non, c'est Hemingway. Il parle de la mort dans Les neiges du Kilimandjaro, qui est un livre sur la mort, et donc dans les... ce superbe Grande Nouvelle, ou petit roman, Les neiges du Kilimandjaro, il est mourant, et il dit, ça peut être de policiers sur une bicyclette, il veut pas du tout dire qu'ils vont venir vous arrêter, vous tuer, mais c'est ça paraît sous des dehors que l'on... c'est comme les dieux antiques qui apparaissaient sous des dehors que, qui étaient très modestes et pas du tout divins, quoi. Donc, et la mort, je pense, si elle apparaît, si, quand on vit encore, des fois, il y a des signes qui peuvent exister, si toutefois on peut les percevoir, comme certains pouvaient percevoir les dieux antiques quelque part, au bord d'une fontaine, dans un jardin, c'est sous des dehors qu'on ne peut pas, qu'on n'avait pas imaginé avant, certainement. Quant au moment où elle arrive, ça, alors, c'est quelque chose qui n'est pas pensable, de toute façon.
Dernière question, Jean-Jacques Schul, vous avez un jeu de cartes devant vous, c'est pour jouer avec la mort ?
Alors, oui, ce jeu de cartes, c'est non, il n'y a pas la dame de pique, des choses comme ça.
Oh.
Je suis désolé, elle n'y est pas. Mais c'est un peu comme lui. Il y a des sentences, des conseils. C'est...
Ah ben alors tirez-en une.
En principe, il faut en tirer trois.
Mais alors j'en
tire trois et vous allez aussi en tirer trois.
Alors il faut dire que les cartes sont curieuses, elles sont toutes noires.
Voilà,
d'un côté.
C'est le jeu de Brian Eno qui s'appelle Oblique Stratégie. Et c'est quelque chose, non pas pour se sortir des griffes de la mort, mais plus simplement pour pouvoir continuer un travail de composition musicale ou d'écriture ou de scénario. C'est le cinéaste Bertrand Bonello qui me les a offertes.
Beau cadeau. J'en tire trois. Alors à vous.
Moi j'ai « Work at a different speed ». Travailler à une vitesse différente. J'ai...
Ça c'est ce que vous faites tout le temps.
Oui. Oui, alors, oui, non, mais justement, alors ça c'est l'image, mais je veux casser l'image, j'ai prévu maintenant, comme le livre a 90 pages, et que je vois qu'on peut faire des livres plus courts, je crois que je vais en faire 3 en 2 ans. Different speed.
Là.
Je vais écouter la carte.
Vous accélérez.
Ensuite, j'ai Ghost Echoes.
Ah, ça
Echo
c'est
du fantôme.
Vous.
Oui, ça c'est absolument. On dirait que le jeu a été fait pour moi, ou que les 3 cartes sont truquées. Et Cut... « Vital connection », couper une connexion vitale. Ah non, merci, ça va, j'en sors. On ne pas recommencer, à vous.
« Give the game away », c'est pas terrible, hein ?
Pas terrible.
« Décorette, décorette », pas terrible.
Non.
« Bridges, build et burn », pas terrible non plus.
Bon,
on va les construire, les ponts.
Vous en faites rien, alors ?
Non, je bon. Vous les rends. Merci
D'accord.
beaucoup.
C'était truqué, écoutez.
En tout cas, merci infiniment pour ce très beau texte. On attend le suivant dans un an, donc.
Oui, 3 suivants.
D'accord.
Comme ça, on ne va plus me dire...
Vous êtes un paresseux, vous publiez un livre tous les 25 ans.
Work at a different speed, je vais écouter la carte.
Voilà, vous avez raison. En tout cas, les apparitions viennent de paraître aux éditions Gallimard dans la collection L'Infini. Merci infiniment.
Merci, Laura Adler.
I will hurt you, I'll desert you.
C'est avec Fontaine d'ici que nous allons nous quitter ce soir. Merci Jean-Jacques Schoul. Je rappelle que votre livre s'intitule « Les apparitions » et qu'il est publié aux éditions Gallimard. Merci à Yvan Turc qui est à la régie technique ce soir. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à Élodie Royer, Céline Villegas, Marie Clément et bien sûr Lilian Allôme qui a réalisé cette émission.